Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Jamais sans doute la situation n'aura été aussi sombre pour les Palestiniens et le casting de la future équipe choisie par Donald Trump pour son second mandat n'incite guère à l'optimisme pour le Proche-Orient. Dans la même semaine, on a entendu le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich proclamer que l'année 2025 serait l'année de la souveraineté en Judée et Samarie. En clair, l'État hébreu s'apprête purement et simplement à annexer la Cisjordanie, territoire qu'il occupe illégalement depuis la guerre des Six Jours en 1967 et où quelques 500 000 colons israéliens se sont installés au fil des ans, 750 000 si l'on inclut Jérusalem-Est. Dimanche dernier, l'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza s'est encore un peu plus éloigné avec la décision du Qatar, sous la pression de l'administration Biden, de suspendre sa médiation entre Israël et le Hamas, l'émirat accusant les deux parties de ne pas vouloir parvenir à un accord. Enfin, la victoire de Donald Trump à la présidentielle du 5 novembre a fait jubiler Benjamin Netanyahou, qui s'est empressé de féliciter chaleureusement son candidat de prédilection, avant de lui envoyer un émissaire, l'ex-ambassadeur israélien aux États-Unis Ron Dermer, pour discuter de l'Iran. Alors, avec Donald Trump de retour à la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou aura-t-il carte blanche pour remodeler le Proche-Orient à sa façon? On en débat avec nos invités, David Rigoulet. Les Roses, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, paru chez L'Harmattan. Vincent Lemire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur à l'Université Paris-Est Gustave Eiffel, co-auteur avec Thomas Negarov du livre Israël-Palestine, anatomie d'un conflit, publié aux Arènes. Alain Dikoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur de Israël-Palestine, une guerre sans fin, point d'interrogation, paru en 2022 aux éditions Armand Collin. David Rigoulet-Rose, ma première question est pour vous. Est-ce que le grand gagnant de la présidentielle américaine après Donald Trump, c'est Benjamin Netanyahou, comme l'a titré la semaine dernière le journal libanais L'Orient le Jour?
Ah, il est peu contestable que la nouvelle administration qui doit s'installer en janvier prochain, avec les nominations qui ont été annoncées, ne peuvent que contenter évidemment le Premier ministre israélien. Quand on voit les nominations, c'est effectivement un ensemble de personnalités qui sont sur une ligne très pro-israélienne.
Sont récompensées pour leur loyauté et pas pour leurs compétences.
Oui, alors effectivement, c'est loyauté à la personne même du président américain, bien sûr. Ça a suscité d'ailleurs des remous, pas seulement des interrogations, y compris dans certains rangs républicains au Congrès, sur certaines nominations, notamment le secrétaire à la Défense ou d'autres, parce que on sort du cadre, on va dire, classique, effectivement, de l'establishment.
Secrétaire à la Défense, donc un animateur de Fox News,
oui,
Pete Hegseth.
Animateur de... Là, il y a évidemment un lien avec le profil du président auquel il va être associé, y compris aussi...
Un émissaire au Moyen-Orient, Steve Witkoff, un de ses partenaires de golf.
Qui était un de ses partenaires de golf, mais ce sont tous des fidèles. Donc il a privilégié par rapport à son premier mandat, il ne veut pas se retrouver vraisemblablement dans la situation où il est obligé de limoger un certain nombre de ceux qui avaient été nommés. Donc il veut d'emblée, à ces postes très sensibles des fidèles.
Alain Dikoff, lors de son premier mandat, Donald Trump avait donné beaucoup de gages de soutien à Israël en faisant fi du droit international. Selon vous, il va suivre exactement le même chemin ?
Exactement, c'est difficile de le dire, mais oui, Donald Trump est clairement quelqu'un qui aime, comme il le dit lui-même, avoir une dimension disruptive. Donc en effet, il avait transféré à l'ambassade, comme on le sait, américaine à Jérusalem. Il avait considéré que la colonisation n'était pas nécessairement illégale. Donc oui, il avait dit des choses et fait des choses qui allaient dans cette direction, et il est probable qu'il fasse des choses du même ordre, et ça pourrait entre autres en effet être l'acceptation de l'annexion par Israël au moins d'une partie de la Cisjordanie. Ça c'est très possible, ça n'est pas certain, mais c'est très possible. Mais ce que je voudrais peut-être dire d'emblée, au-delà des questions de personnes qui ont déjà pu être évoquées avec le secrétaire à la Défense pressenti ou le secrétaire d'État Marco Rubio qui est aussi pressenti pour prendre la place d'Anthony Blinken, c'est que au-delà d'un effet de style aussi et qui sera très différent, il ne faut pas non plus sous-estimer les continuités entre l'administration qui va se mettre en place et l'administration Biden.
C'est-à-dire
dans le sens où, par exemple, sur une question évidemment qui préoccupe beaucoup de gens depuis en particulier 15 mois, à savoir la question palestinienne, l'administration Biden, alors c'est vrai, elle s'est retrouvée à devoir gérer quelque part une guerre, ça a compliqué beaucoup les choses, mais moi j'aimerais prendre les choses encore avant la guerre, ce qui paraît très clair, enfin, parce qu'on le constate, c'est que l'administration Biden n'a pas du tout été active sur la question palestinienne, elle n'a pas défendu de façon forte la solution à deux États, elle n'a pas fait comprendre à Netanyahou qu'il fallait aller dans cette direction, donc je dirais que ce que je minimiserais en tous les cas, c'est si vous voulez la nouveauté absolue que représenterait l'administration Trump. En réalité, vous allez la comprendre dans la continuité de l'administration Biden, qui était elle-même dans la continuité, en tous les cas partielle, sur beaucoup de points, de l'administration Trump 1.
Vincent Lemire, pendant sa campagne, Donald Trump avait assuré qu'une fois élu, il mettrait rapidement fin à la guerre en Ukraine et au Proche-Orient, mais il avait aussi déclaré qu'Israël devait finir le boulot contre le Hamas. Et selon les médias israéliens, il aurait demandé à Netanyahou en juillet de mettre fin aux hostilités à Gaza et au Liban avant son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier. C'est un blanc-seing au Premier ministre israélien pour les deux mois qui viennent ?
Je pense que, évidemment, le premier cadeau que Benjamin Netanyahou va faire à Donald Trump, c'est un cessez-le-feu, voire deux. Ce qui est fou, c'est qu'au printemps dernier, on se disait il est possible que Netanyahou essaye de prolonger la guerre jusqu'au 5 novembre pour tenir jusqu'aux élections, mais ça nous paraissait être pratiquement inatteignable. C'est évidemment son objectif. Et ce qu'on savait, par exemple, au mois de septembre-octobre, c'est que de cesser le feu, il n'y aurait pas, puisque Netanyahou n'avait aucune intention de donner un coup de pouce à Biden, ou plutôt à Kamala Harris. Donc ça, c'est sur la chronologie, c'est à peu près certain qu'on va voir Donald Trump débarquer sur le tarmac et sans doute faire un hug aux quelques otages qui auront pu être libérés et se prendre le crédit, quoi. Au-delà de ça, pour engager cette conversation, moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense que Trump, comme Netanyahou, comme Poutine d'ailleurs, font partie d'une triade. C'est ceux qui veulent remplacer le monde du droit par le monde de la force, en fait. Remplacer le droit par la force, alors ça veut dire je mettrai fin à cette guerre, ça veut dire d'être en permanence dans des rapports de force, dans des espèces de négociations avec des contreparties X ou Y ou Z. C'est peut-être ça qui pourrait éventuellement un jour inquiéter Netanyahou, c'est le côté complètement inconséquent et parfois
imprévisible
de Donald Trump. Mais c'est certain qu'il n'attendait que ça. Et d'ailleurs, dès le lendemain matin, il y avait des grands panneaux publicitaires dans Jérusalem et à Tel Aviv pour féliciter Trump de sa victoire.
David Rigoulet-Rose, en 2020, Trump avait proposé la création d'un État palestinien démilitarisé, réduit à la portion congrue. On connaît sa position aujourd'hui sur le sujet, sur la solution à deux États ?
Donald Trump n'a pas de conviction particulière sur cette question. Il avait fait des déclarations assez ambivalentes d'ailleurs, où il évoquait deux ou un État et que ce serait laissé d'une certaine manière à la discrétion des parties prenantes.
Oui, il disait un, deux, trois, oui. Autant que vous voulez, pourvu que vous êtes d'accord.
Oui, c'est ça. L'essentiel pour lui, il est en permanence dans une logique transactionnelle, l'essentiel c'est effectivement d'arriver à un deal, quelle que soit la forme que le deal puisse prendre, sans véritablement de conviction particulière, sauf à considérer qu'il va valider évidemment les aspirations du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais donc sur ces questions, en réalité, il n'a pas de doctrine. C'est pas du tout comme d'autres administrations qui avaient une doctrine. Bon, même si le viatique de la solution à deux États a toujours été défendu par les administrations successives, qu'elles soient démocrates ou républicaine, hein, d'ailleurs. Donc là, il y a une rupture, effectivement, parce qu'il est dans une gouvernance tout à fait différente. On a changé de monde en termes de gouvernance, et c'est pour ça que ça suscite beaucoup d'interrogations sur la suite des événements, bien sûr.
Ouais, alors, il a pas
de Vincent Lemire.
Ouais, il n'a pas de doctrine, mais par contre, autour de lui,
oui.
C'est vrai qu'il y a vraiment, il y a le lobby évangélique qui est, pour le coup, on les a vus, ils sont d'une totale sincérité et d'un engagement absolu pour le soutien à toute politique de colonisation, d'annexion, de recolonisation.
Il a nommé d'ailleurs Mike Huckabee.
Voilà, le futur ambassadeur des États-Unis.
Futur ambassadeur qui est sur la ligne, justement, des deux ministres d'extrême droite, hein, Smotrich et Ben-Gvir.
Oui, pour lui, les Palestiniens n'existent pas, donc l'occupation n'existe pas.
Lui considère que la Cisjordanie est une terminologie inappropriée, puisqu'il évoque explicitement la pertinence, de son point de vue, de Judée-Samarie, qui est le terme biblique, évidemment, repris par les colons.
Alain Dikoff, est-ce que Donald Trump a le même lien émotionnel que Joe Biden avec Israël, ou est-ce qu'il soutient avant tout le partenaire stratégique qu'est l'État hébreu pour les États-Unis ?
Non, il n'a pas du tout le même lien, disons, un peu, je dirais presque personnel, hein, affectif, que Biden pouvait avoir pour diverses raisons. Comme ça l'a été dit justement, Trump est vraiment quelqu'un qui est le défenseur de ce qu'il appelle la politique transactionnelle, donc en fait, tout doit pouvoir se négocier. Et là, je voudrais introduire une chose, c'est que il est de ce point de vue-là, même si il est certainement favorable, en tous les cas, il ne serait pas hostile à ce qu'une partie de la Cisjordanie soit annexée par Israël à un moment ou à un autre. En même temps, si le prix, par exemple, d'un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël est quelque part l'acceptation d'un État palestinien qu'on pourrait appeler croupion sur 40% de la Cisjordanie, je pense que Trump serait tout à fait capable d'aller dans cette direction si c'est le prix à payer pour avoir cet accord de paix, parce que pour lui, c'est une des choses essentielles, c'est ça, la question palestinienne, elle est sans importance à ses yeux, mais par contre, la normalisation d'Israël avec l'Arabie Saoudite, elle est capitale, et c'est aussi important pour Biden. La différence, c'est que je pense que Trump, justement, comme il est animé par cette logique un petit peu de ben, on peut dealer sur tout, eh bien il serait peut-être pas il serait en mesure de dire en effet ben, si le prix à payer c'est un mini État palestinien, ben, il faut qu'Israël accepte ça si c'est le prix pour un accord avec les Saoudiens.
David Rigoulet-Rose, vous êtes d'accord ? Parce que les dirigeants des pays arabes et musulmans étaient réunis à Riyad en début de semaine et ils ont envoyé un message clair, pas de paix au Moyen-Orient sans le retrait israélien des territoires palestiniens occupés. Est-ce que ces mots peuvent être entendus par Donald Trump ?
Oui, mais ça fait partie des éléments de langage imposés hein, par ce type de réunion, de toute façon, a fortiori de la part de l'Arabie Saoudite qui est dans une position très compliquée parce que les négociations avant le 7 octobre étaient très avancées, justement pour une normalisation tadbi entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et c'est l'objectif premier de Benjamin Netanyahou. Et donc, ça a été différé, évidemment, du fait des événements du 7 octobre. Mais sur le fond, la dynamique n'est pas remise en question. C'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump entend bien finaliser ce que n'a pas pu faire Joe Biden, qui aurait aussi souhaité ça. Et donc, en réalité, cette question, elle est centrale, l'Arabie Saoudite, parce que le prince Mohammed bin Salman, il n'est pas du tout comme son père, le roi Salman, sensible à la question palestinienne. Il est aussi dans une logique transactionnelle. Aussi,
lui, c'est les affaires qui l'intéressent,
oui,
comme Donald Trump.
Un peu comme Trump. Et d'ailleurs, il met des conditions parce qu'il a dû remettre la question palestinienne, parce qu'il est quand même l'héritier du fameux plan Abdallah 2002. Il ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Mais en même temps, bon, c'est en fonction de l'évolution de la situation. Et on voit bien d'ailleurs dans les relations qu'il entretient avec Téhéran, qui peuvent paraître paradoxales, mais qui rentrent aussi dans ce jeu justement complexe, transactionnel, au niveau multiforme.
Le Qatar a suspendu sa médiation entre Israël et le Hamas, mais sans mettre à la porte, pour l'instant, le mouvement islamiste palestinien, qui garde son bureau politique à Doha. Dans quel but l'administration Biden a-t-elle fait pression sur le Qatar ? Parce qu'une médiation qui s'arrête, est-ce que ce n'est pas contre-productif, Vincent Lemire, quand on veut obtenir un cessez-le-feu et la libération des 97 otages israéliens, toujours captifs à Gaza ?
Bon, il y a deux acteurs possibles, hein. Il y a l'Égypte et on sait bien depuis le début que les États-Unis, pour plein de raisons, ont plus l'habitude de travailler avec la médiation égyptienne qu'avec la médiation qatari, qui n'est pas entièrement dans les mains états-uniennes. Donc voilà, déjà pour dire, le fait que cette médiation qatari s'arrête, ça renforce la main de l'Égypte, et l'Égypte a un rôle central, parce que l'Égypte, évidemment, a une frontière avec Gaza, parce qu'il y a la question du couloir de Philadelphie. Enfin, l'Égypte peut mettre dans la discussion d'autres éléments que seulement la question des...
Mais est-ce que l'Égypte est la mieux placée pour discuter avec les membres du Hamas ?
Mais disons que l'Égypte, c'est un médiateur plus classique, plus ancien, qui a eu de nombreux succès, beaucoup plus rassurant, j'allais dire statique, pour les États-Unis, pour l'administration américaine classique, pour les Israéliens aussi, d'une certaine manière. Voilà, la médiation qatari, c'était une médiation plus politique, parce que, effectivement, la direction politique du Hamas était au Qatar, mais enfin... Elle n'y est plus. D'ailleurs, on ne sait plus où est la direction politique du Hamas. Hein. Donc, j'allais dire, le Qatar, et là, ils ont, les Qataris se retirent parce que, pour l'instant, ils n'ont plus vraiment de cartes à jouer. Il leur reste, évidemment, il leur reste des dirigeants du Hamas à Doha. Mais voilà, cette phase-là est terminée. Je pense que c'est la médiation égyptienne qui va s'imposer à nouveau, qui est une médiation beaucoup moins politique, beaucoup plus géostratégique, beaucoup plus à l'ancienne, j'allais dire. Il ne faut pas oublier que l'armée égyptienne, c'est une armée états-unienne, hein, entièrement. Donc là, on est sur des données très lourdes. Hein. Et puis l'Égypte est en paix avec Israël. Enfin, voilà. Donc, ça n'annule pas toute possibilité de médiation. C'est juste qu'on revient à des fondamentaux un peu lourds, un peu statiques, un peu structurants.
David Rigoulet-Rose, est-ce que vous êtes d'accord avec Vincent Lemire ?
Oui, sur le rôle de l'Égypte, c'est incontestable. De toute façon, l'Égypte, objectivement, est un partenaire incontournable du fait de la frontière et du fait aussi de la question très, très compliquée du Hamas, c'est-à-dire la mouvance des frères musulmans qui est pourchassée en Égypte. Donc, il faut signaler d'ailleurs que le chef des services de renseignement vient d'être changé. Hein, c'était le général Abbas Kamel qui a été remplacé récemment. C'est aussi pour partie lié aux échecs hein, qui ont eu lieu aux impasses des négociations précédentes. Donc il y a un renouvellement, on va dire, de la personne qui gère cette question. Mais sur le Qatar, les choses sont particulièrement complexes en profondeur. C'est-à-dire que dès le mois de novembre dernier, Anthony Blinken avait dit de toute façon que la question de la localisation du bureau du Hamas à Doha ne pourrait pas demeurer dans le statu quo qui prévalait jusque-là. Mmh. Et donc c'était déjà une idée de ce que les États-Unis considéraient, en coordination avec les Israéliens, le fait que potentiellement le bureau ne pourrait pas rester à Doha. Il faut rappeler qu'il était venu de Damas, mais que le soutien du Hamas aux insurgés syriens avait fait partir le bureau justement à Doha. Il se trouve que, compte tenu de l'impasse, le Qatar ne veut pas être comptable de l'échec des négociations. Il a réussi un pari qui était la première libération en fin d'année dernière, et là ils ont compris que c'était plus possible, et surtout ils savent que les représentants du Hamas sont dans le collimateur d'Israël, et il y a un deal préexistant entre Israël et le Qatar qui préconise qu'il n'y ait pas d'élimination ciblée à Doha. Mais les choses ont changé, évidemment. On l'a vu avec les différentes éliminations ciblées. Et donc, la position du Qatar est moins favorable aujourd'hui qu'elle ne l'était. Ce qui explique, évidemment, ce retrait affiché comme lié à une impossibilité de sa part. Ça va certainement au-delà de ça.
Alain Dikoff, votre avis sur la question de ce retrait du Qatar, de la médiation entre Israël et le Hamas ?
Moi, je souscris à ce qui a été dit. Je crois qu'en effet, c'est en effet le Qatar se trouvait dans une position quelque part, peut-être qui était plus tenable sur le long terme, en l'absence de résultats, et que dans ce contexte, il y aura peut-être en effet une carte à jouer pour les Égyptiens qui pourraient revenir dans le jeu, d'autant plus que, et ça a été dit très justement, évidemment, ils sont les premiers concernés, puisque c'est avec les Israéliens les seuls qui contrôlent aussi une des frontières de Gaza.
David Rigoulet-Rose, qui dirige le Hamas depuis l'élimination de son chef Yahya Sinwar le 16 octobre par l'armée israélienne?
Alors, après l'élimination, il y a un conseil collégial qui a été mis en place. Qui regroupe un certain nombre de gens connus et une non connue. Donc il y a Khalil Alaya qui est un des négociateurs justement qui était partie prenante sur les otages, le cessez-le-feu des otages, même si ça n'a pas été finalisé. Il y a Khaled Meshal qui est représentant à l'extérieur. On ne sait pas s'il est à Doha ou ailleurs. Il y a Zahir Jabarin qui est un représentant notamment qui est spécialiste des questions des finances aussi du Hamas, et Mohamed Darwish, chef du conseil de la Shura. Et puis une cinquième personne qui n'est pas dont l'identité n'a pas été rendue publique. Donc il y a une dimension collégiale qui est aussi une manière d'éviter de mettre une cible sur une personne comme ça a été le cas précédemment, parce qu'à chaque fois, évidemment, les Iraniens ont dit d'ailleurs que dès qu'il y aurait un nouveau responsable, il serait une cible privilégiée. Donc c'est une manière de diluer la responsabilité responsabilité dans une instance collégiale.
Diluer le risque aussi.
Oui, c'est ça. Oui.
David Rigoulet-Rose, Alain Dekoff, Vincent Lemire, on se quitte le temps d'un nouveau journal sur RFI et on se retrouve dans 10 minutes.
Géopolitique, Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Gaza, Liban, Iran, avec Donald Trump de retour au pouvoir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aura-t-il carte blanche pour remodeler le Proche-Orient à sa façon? On continue d'en débattre avec trois spécialistes de la région, David Rigoulet-Rose, Alain Dekoff et Vincent Lemire. L'ONG Human Rights Watch vient de publier un rapport qui affirme que les ordres d'évacuation à répétition de l'armée israélienne dans la bande de Gaza mène à des déplacements forcés de population, constituant un crime contre l'humanité. Israël a jugé évidemment ces accusations totalement fausses. Vincent Lemire, la justice internationale a-t-elle les moyens, la volonté de s'emparer de ce dossier brûlant ?
La volonté, c'est certain. Les moyens juridiques, c'est de plus en plus évident. C'est-à-dire qu'on voit quand même que le dossier ne cesse de se renforcer, de se consolider sur le plan juridique. Il y a eu, y compris... C'est arrivé jusqu'au débat public français, mais des grands chercheurs israéliens qui ont pris position, qui ont changé d'avis d'ailleurs ces derniers mois, Amos Goldberg, qui a donné un long entretien dans Le Monde il y a une quinzaine de jours. Il est titulaire de la chaire d'histoire de la Shoah à l'Université hébraïque de Jérusalem. On ne peut pas être plus légitime que ça. Et il a écrit « Ce qui se passe à Gaza est un génocide ». Ça, vous avez raison d'introduire ce sujet parce que, on voit que là, les diplomaties vont être encore plus entravées qu'à l'époque de Biden, entre Poutine, Trump, Netanyahou et d'autres qui ne croient plus que dans le rapport de force. Et les diplomates étant entravés, on voit bien que c'est les juges du droit international qui aujourd'hui sont en responsabilité de maintenir ce qui peut être conservé, protégé du droit international né de la Deuxième Guerre mondiale. Alors il faut dire de ce point de vue-là que Netanyahou a très très peur. Mais vraiment, on a des témoignages extrêmement convergents. Il a vraiment très peur de l'émission de ce fameux mandat d'arrêt de la CPI contre lui.
Oui, mais justement, on attend depuis le mois d'août que la CPI lance des mandats d'arrêt contre Netanyahou, contre son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, puisque j'imagine que les mandats ont disparu avec la mort des chefs du Hamas, Yahya Sinwar notamment. Et les juges qui habituellement lancent ces mandats d'arrêt trois semaines après la demande faite par le procureur de la CPI, là aujourd'hui on en est à plus de deux mois et il ne se passe rien.
Oui, c'est même encore plus long que ça. Il y a là aussi dans les deux mois qui viennent, c'est-à-dire jusqu'à la prise de fonction de Donald Trump, la question c'est est-ce que Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris vont se sentir un petit peu comme Obama avant de passer la présidence à Trump 1. Est-ce qu'ils vont se sentir en responsabilité de quelque chose? Est-ce qu'ils vont essayer de cranter des décisions juridiques? Est-ce qu'ils vont retirer leur veto au Conseil de sécurité? On sait qu'il y a des résolutions qui sont en préparation, des résolutions très dures. Ça a été le cas pour Obama avant Trump. Alors, ça n'avait pas eu d'incidence. On sait aussi que les États-Unis, ces derniers mois, ont menacé très directement le procureur, un petit peu moins directement que Netanyahou, mais assez directement quand même, le procureur et les juges de la CPI, si un mandat était émis, alors que par ailleurs, ils ne sont pas signataires. On pourrait imaginer que de façon plus ou moins discrète, l'administration Biden-Kamala Harris fasse passer le signal que dans les semaines qui viennent, ce mandat d'arrêt pourrait être émis. Je suis sans doute trop optimiste. J'essaye seulement d'explorer les pistes. Je ne peux pas imaginer que l'administration Biden-Harris ne fasse rien jusqu'au 5 janvier et n'essaye pas de cranter quelque chose. Il y a la question aussi de la fourniture des armes. Parce qu'il y avait ce fameux délai de 30 jours pour faire rentrer plus d'aide humanitaire.
Et sinon, Israël a cédé en partie en ouvrant un nouveau point de passage.
La veille de la deadline d'ouvrir Kerem Shalom, c'est presque, je veux dire, une provocation. Donc voilà, les États-Unis ont des leviers, ont des options, et il se pourrait que dans les 6-7 semaines qui viennent, d'ici Noël, ils décident un bouger qui pourrait être peut-être un petit peu plus efficace que ce qu'Obama avait essayé de faire lui aussi à l'automne avant la première présidence Trump.
Alain Dekoff, est-ce que vous êtes aussi optimiste que Vincent Lemire ?
Peut-être un peu moins, parce que je dirais que c'est vrai que dans l'absolu, la période où un président est américain sortant non réélu, ce qui est le cas de Biden, est ce qu'on appelle aux États-Unis un lame duck, c'est-à-dire une sorte de, oui, un canard boiteux, grosso modo, il est à la fois dépourvu de pouvoir et en même temps, il peut faire des choses qu'il n'aurait peut-être pas fait auparavant. Donc c'est vrai qu'en théorie, cette possibilité existe. On se souvient aussi, pour revenir un petit peu plus loin, qu'en 2000, Bill Clinton avait, le 24 et le 25 décembre 2000, présenté vraiment à l'extrême fin de son mandat une sorte de plan de règlement du conflit israélo-palestinien. Mais évidemment, quelque part, c'était trop tard. Donc, je dirais qu'on est un peu dans le même type de configuration. Donc Biden va s'en aller, Kamala Harris n'a pas été élue. Donc quelque part, il pourrait avoir les mains un peu plus libres. Mais si j'en juge, en tous les cas, par ce qu'il n'a pas fait depuis le mois d'octobre de l'année dernière, c'est-à-dire finalement, oui, de temps en temps, il a refusé de livrer telle ou telle arme, mais ça a quand même été assez homéopathique, je dirais. Je le vois assez mal assumer une position forte sur ce dossier maintenant, et d'autant plus que Trump a déjà dit, alors évidemment, il claironne alors qu'il n'a pas encore en pouvoir, mais Trump a déjà dit ouvertement qu'il va essayer même déjà avant sa prise de fonction, commencer à faire des choses pour le rapprochement israélo-saoudien. Donc, bon, évidemment, il outrepasse un petit peu ses droits, puisqu'il n'est pas encore au pouvoir, mais enfin, ça donne quand même une tonalité. Donc, dans ce contexte-là, Biden, qui n'a quand même pas été extrêmement courageux, je ne le vois pas trop s'engager là-dedans.
David Rigouleros, quand on voit que les grandes puissances, à commencer par les États-Unis, sont restées totalement passives face à la tragédie de Gaza, on en est à plus de 43 000 morts en 13 mois de guerre, selon les chiffres du Hamas corroborés par l'ONU, 70% de femmes et d'enfants parmi ces victimes, qui pourrait empêcher l'annexion de la Cisjordanie que seraient en train de préparer les Israéliens?
Le problème, c'est qu'on prête trop au droit international, parce qu'il y a une dimension incantatoire. Le droit international, il a ce site particulier qu'il n'est pas un droit positif au sens propre du terme, avec assuré, garanti par un souverain. Il n'y a pas de souverain mondial. Donc, contrairement au droit étatique qui est imposé, le droit international est consenti dans ses modalités par les acteurs en présence. Et donc l'ONU, notamment, c'est juste la caisse de résonance de l'équilibre, des équilibres géopolitiques à un moment donné. Parfois, exceptionnellement, il y a une convergence de vues, c'est très rare, et en général, c'est plutôt des divergences, des rivalités. Et là, on est dans une séquence internationale où, clairement, ce qui s'impose, c'est des rivalités majeures. Et donc, avec l'impossibilité de faire prévaloir ce qu'on entend par droit international de manière générale. C'est pour ça que c'est très compliqué. Ça vaut pour ce conflit, comme pour l'Ukraine, comme pour ailleurs. Et donc, ça soulève évidemment des grandes inquiétudes pour la suite des événements, parce que on se dit que il y a une atmosphère générale qui est beaucoup moins, on va dire, collective pour régler un certain nombre de questions qui sont majeures à l'échelle planétaire.
Je vous propose d'écouter à présent l'ancien chef d'état-major israélien Gadi Eisenkot, ex-membre du cabinet de guerre. Interviewé par une chaîne de télévision israélienne, la chaîne 12, il s'est livré à une critique virulente du Premier ministre Netanyahou.
Il était clair qu'il y avait un écart entre les objectifs visibles et cachés. Une partie centrale de la coalition gouvernementale travaille à la réalisation des objectifs cachés, à savoir l'arrivée d'un gouvernement militaire dans la bande de Gaza et le retour des colonies à Gaza.
Alain Dikoff, avez-vous été surpris par ces propos de l'ancien chef d'état-major israélien Gadi Eisenkot?
En tous les cas, ils ont le mérite de la clarté. Et là, pour le coup, dans l'effet d'un certain courage, oui, je pense que ça souligne une chose que l'on soupçonne depuis longtemps, c'est que il y a l'objectif affiché de l'offensive militaire qui était de détruire, ou en tous les cas d'affaiblir le Hamas, ça c'est une chose, Mais derrière ça, il y a d'autres acteurs qui ont des visées qui vont beaucoup plus loin, et en particulier l'extrême droite qui fait partie du cabinet israélien et qui œuvre, et ce depuis le tout début de l'offensive militaire, hein, quasiment depuis un an, qui voudrait en effet profiter de l'occasion pour reprendre pied à Gaza. Il y a eu une grande conférence à Jérusalem, non officielle, mais enfin où il y avait quand même des officiels, qui a clairement mis en avant cet objectif déjà à la toute fin de l'année dernière. Donc il y en a qui œuvrent vraiment, toujours les mêmes évidemment, Ben-Gvir, Smotrich, mais aussi avec un soutien venant de certains éléments du Likoud, à l'évidence. Donc là, quelque part, il y a un continuum, je veux dire, entre le Likoud et l'extrême droite. C'est pas aussi tranché, hein, en réalité, il y a un continuum, et y compris sur cette question de la recolonisation potentiel de Gaza.
Oui, parce qu'Israël avait évacué Gaza en 2005, en démantelant ses 21 colonies dans l'enclave. Y revenir pour la réoccuper de manière permanente, c'est l'envie des politiques, mais pas de l'état-major de l'armée, David Rigolet-Rose.
Ah non, certainement pas de l'état-major de Tsahal et de l'establishment militaire et des services de renseignement d'ailleurs, parce qu'ils savent que c'est la porte ouverte à de nouveaux problèmes très, très difficiles à gérer. Vous rappeliez l'évacuation 2005. C'est un ancien premier ministre, c'est Ariel Sharon, qui était premier ministre du Likoud. Ce qui veut dire que l'ADN du Likoud a un peu changé en cours de route. Hein. Certains membres du Likoud, d'ailleurs, s'interrogent sur la cohérence du parti à partir du moment où il s'allie avec des partis messianistes d'extrême droite, comme ceux de Bezalel Smotrich et ou Itamar Ben-Gvir. Parce qu'effectivement, les deux, d'ailleurs, explicitement, ont à plusieurs reprises appelé à une expulsion des Palestiniens. C'est pas forcément la ligne traditionnelle du Likoud nationaliste. Là, on voit bien qu'il y a une évolution, et on peut considérer qu'avec le 7 octobre, quand on met en perspective ce qui s'est passé, il y a une forme de convergence objective, hein, entre l'extrême droite du gouvernement et le Hamas, qui, dans son opération militaire, a visé les kibbutz, c'est-à-dire toute cette partie de la société israélienne qui était pour des négociations avec les Palestiniens, évidemment, et c'est eux qui ont été la cible principale de l'opération, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une majorité de la société israélienne, et c'est pas uniquement la partie à droite de la société, qui n'envisage plus la possibilité de négocier. Et d'ailleurs, il y a eu un vote à la Knesset en août dernier, une écrasante majorité qui rejette l'idée même d'État palestinien. Et c'est pas le propre de la mouvance du Likoud ou plus encore l'extrême droite. C'est un problème majeur pour le jour d'après, et surtout un horizon politique pour la problématique palestinienne.
Mais en même temps, 3500 Israéliens ont déjà signé une pétition pour appliquer, je cite, toutes les sanctions possibles contre Israël en vue d'un cessez-le-feu immédiat. Alain Dikoff, est-ce que la société israélienne, qu'on a dit anesthésiée depuis le traumatisme du 7 octobre, on a vu des gens effectivement de gauche, pacifistes, se radicaliser, comme l'expliquait David à l'instant. Est-ce que la société est quand même en train de se réveiller, ou est-ce qu'il s'agit toujours d'une minorité de la population ?
Non, je crois que ce qui paraît quand même encore très vrai aujourd'hui, c'est que d'une part, ça reste une société traumatisée, et ce, d'autant plus que il faut bien se rendre compte à l'extérieur, donc en France, que ou dans les autres pays européens, que finalement le trauma du 7 octobre, il est quelque part constamment alimenté par les manifestations des familles d'otages, par les témoignages d'anciens otages, etc. Et donc tout ça est repris évidemment par les médias. Donc on est toujours quelque part en Israël dans le post 7 octobre en réalité, sans que le trauma ne soit véritablement, si je puis dire, ingéré, hein, et pour qu'on puisse aller éventuellement au-delà. Donc en effet, les prises de position plus politiques sont finalement assez rares encore aujourd'hui. On a pu voir, par exemple, une pétition qui a rassemblé quelques dizaines de réservistes qui prenaient position pour dire qu'ils n'iraient pas faire une période de réserve supplémentaire à Gaza. Donc il y a des petites choses comme ça, mais ça reste quand même très très marginal en réalité. Et je dirais que entre ceux qui ont été gagnés, ou même dont le nationalisme a été encore renforcé depuis un an et demi, et ceux qui étaient peut-être plus modérés, mais qui sont devenus eux-mêmes plus nationalistes, ou en tous les cas craignants sur l'avenir un petit peu à plus long terme de leur pays, ben, je dirais que les voix politiques véritablement critiques, elles sont quand même très très minoritaires.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Venons-en maintenant à l'Iran. Il y a quelques semaines, Joe Biden avait refusé de soutenir militairement le bombardement par Israël des installations nucléaires iraniennes. Mais Benjamin Netanyahou n'a visiblement pas abandonné son projet. Pourra-t-il compter sur le feu vert de Donald Trump, David Rigoulet-Rose?
Alors d'abord sur cette question qui est éminemment complexe, il y a évidemment l'obsession israélienne en général et de Benjamin Netanyahu en particulier de cette question nucléaire. Donc effectivement, il y a eu un veto américain plus ou moins explicite dans la première réponse israélienne sur le fait de cibler effectivement à la fois des sites pétroliers et ou nucléaires. Mais en réalité, de toute façon, pour qui est l'objectif, c'est affiché, déclaré, d'empêcher l'Iran d'obtenir la bombe. C'est une promesse américaine, c'est une attente d'Israël. Le problème, c'est qu'Israël, de toute façon, ne peut pas faire une opération seule sur le plan militaire. Tout simplement parce que pour aller dans des sites comme Fordo ou Natanz, qui sont en profondeur à près de 70-80 mètres, seuls les Américains disposent des munitions pour parvenir éventuellement à faire des dégâts attendus. En l'occurrence, c'est la GBU 57AB, c'est-à-dire c'est une bombe de forte pénétration dont ne disposent pas les Israéliens pour l'instant. Et que les Américains ont toujours refusé de leur livrer, y compris des avions ravitailleurs, justement, notamment de Boeing, dont le premier doit être livré en 2025. Et donc, dans cette configuration, c'est pas uniquement une autorisation de Donald Trump qui pourrait être un game changer, parce qu'il faudrait, en tout état de cause, une intervention américaine. Or, c'est le paradoxe de la situation, quel que soit le soutien de Donald Trump pour Benjamin Netanyahou, il se présente également, le Donald Trump en question, comme le président qui met fin aux guerres. Donc on voit bien la contradiction justement inhérente à la configuration avec l'Iran, qui demeure évidemment le problème central pour l'administration américaine, l'actuelle et la future, a fortiori parce qu'il a été visé à titre personnel d'ailleurs par une tentative d'assassinat émanant de l'Iran. Mais sur le fond, c'est un problème extrêmement compliqué et on peut pas exclure que sa logique transactionnelle veuille faire aussi l'économie d'une intervention armée des États-Unis. Il a pas du tout envie de ce type. Et là, ça entre en contradiction éventuelle avec les attentes potentielles de Benjamin Netanyahou.
Donc les deux hommes pourraient se fâcher.
Se fâcher, en tout cas, il y a un moment où la question se posera. Dans les conversations qu'ils viennent d'avoir par téléphone, semble-t-il, ils sont d'accord sur la menace représentée par l'Iran, mais la manière d'y remédier ne sera pas forcément totalement coïncidente.
Alain Dikoff, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec David?
Je suis du même avis, c'est-à-dire que je pense que Trump est évidemment tout à fait favorable à ce qu'il y ait par exemple plus de pression, si c'est possible, encore au niveau financier, commercial, etc., donc toute la panoplie de pression qui a déjà été mise en œuvre, même en l'indurcissant, ça je crois qu'il n'y a aucun doute pour lui, l'Iran est un ennemi des États-Unis, c'est très clair, pour toutes les administrations et pour Trump encore davantage. Mais je pense aussi qu'il sera finalement prudent avant de donner une autorisation et d'aider, hein, parce qu'en effet, il y a aussi une dimension opérationnelle, hein, les États-Unis devraient vraiment aider Israël concrètement s'il y avait une série de raids en Iran. Trump sera quand même assez attentif au fait d'éviter une guerre régionale, je dirais, incontrôlable. D'autant plus qu'en effet, il veut se présenter, et je pense que c'est une dimension qu'il faut encore une fois rappeler, parce que il en a fait état pendant la campagne à plusieurs reprises, il veut être quelque part le président de la fin des guerres, quelque part, ou de certaines des guerres. Hein, donc il l'a dit pour la Russie, mais quelque part aussi, s'il y avait des escalades au Moyen-Orient, ça irait dans son sens. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça devrait l'amener quand même à pas donner un blanc-seing en tous les cas. Ça, j'en suis convaincu, il ne donnera pas un blanc-seing à Netanyahou ou à certains ministres encore plus extrémistes qui veulent depuis longtemps déjà bombarder l'Iran.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Vincent Lemire, je rappelle le titre du livre que vous avez publié avec Thomas Negaroff, Israël-Palestine, anatomie d'un conflit, aux éditions Les Arènes. Alain Dikoff, le vôtre s'appelle Israël-Palestine, une guerre sans fin, point d'interrogation. Il est paru en 2022 aux éditions Armand Collin. David Rigoulet-Rose, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Le dernier numéro de la revue vient de sortir chez L'Harmattan, son titre « La chute du Haut-Karabakh arménien et le jeu des puissances ». Et puis le numéro précédent était consacré au Liban, « Polycrise et menaces existentielles ». Vous avez été un peu visionnaire, hein, puisque le numéro était paru en décembre 2023. Merci à Mathias Golshani qui a réalisé cette émission et à Cécile Lavolo et Loan Nader qui l'ont coordonnée. À demain, portez-vous bien.